Le messager. Habitant des demeures de Cadmos et d'Amphion, la vie est toujours telle que je ne puis ni la louer ni l'accuser. En effet, la fortune élève et renverse toujours l'homme heureux et l'homme malheureux, et aucun divinateur ne peut révéler jamais avec certitude la destinée future des mortels. Créon, selon moi, était digne d'envie parce qu'il avait sauvé de ses ennemis cette terre cadméienne. Ayant ici la puissance suprême, il régnait heureusement et florissait par une noble race. Mais voici que tout s'est évanoui. En effet, quand un homme a perdu le bonheur, je pense qu'il est moins un vivant qu'un cadavre animé. Autant que tu le voudras, jouis de tes richesses dans ta demeure et de l'orgueil de la tyrannie. Cependant, si tu ne possèdes pas la joie, je n'achèterai pas tout cela. Comparé au bonheur pour l'ombre d'une fumée.
Quelle nouvelle calamité des rois viens-tu nous annoncer?
Ils sont morts, et les vivants ont été cause de leur mort.
Qui a tué? Qui est tué? Parle!
Aïmon est mort, il a été tué de sa main.
De la main de son père ou de sa propre main?
De sa propre main. Étant irrité contre son père à cause du meurtre d'Antigone.
Ô divinateur, combien ta prédiction était certaine!
La chose étant ainsi, il faut songer au reste.
Mais je vois la malheureuse Eurydice, l'épouse de Créon. Est-elle sortie de la demeure par hasard, ou ayant appris le malheur de son fils? Eurydice, ô vous tous, citoyens, j'ai entendu ce que vous disiez au moment où je sortais afin d'aller supplier la déesse Pallas. Le verrou retiré, j'enlevais la barre de la porte quand le bruit d'un malheur domestique a frappé mes oreilles. Épouvanté, je suis tombé à la renverse entre les bras des servantes et le cœur m'a manqué. Redites-moi ces paroles, quelles qu'elles soient, je les entendrai, ayant déjà subi assez de maux pour cela.
Certes, chère maîtresse, je dirai ce dont j'ai été témoin, et je ne cacherai rien de la vérité. Pourquoi, en effet, te flatterais-je par mes paroles, si je dois être convaincu d'avoir menti? La meilleure chose est la vérité. J'ai suivi ton épouse jusqu'à la hauteur où gisait encore le misérable cadavre de Polynice déchiré par les chiens. Là, ayant prié la déesse des carrefours et Pluton de ne point s'irriter, nous l'avons lavé d'ablutions pieuses, et nous avons brûlé ses restes à l'aide d'un amas de rameaux récemment coupés. Et nous lui avons élevé un tertre funèbre avec la terre natale. Puis de là, nous sommes allés vers l'entrecreux de la jeune vierge, cette chambre nuptiale d'Hadès. Un de nous entend de loin un cri perçant sortir de cette tombe privée d'honneurs funèbres, et accourant, il l'annonce au maître Créon. Tandis que celui-ci approche, le bruit du gémissement se répand confusément autour de lui, et en soupirant, il dit d'une voix lamentable: Ô malheureux que je suis! L'ai-je donc pressenti? Ce chemin ne me mène-t-il pas au plus grand malheur que j'ai encore subi? La voix de mon fils a effleuré mon oreille. Allez promptement, serviteur, et parvenus au tombeau, ayant arraché la pierre qui le ferme, pénétrez dans l'antre, afin que je sache si j'ai entendu la voix de Haïmon, ou si je suis trompé par les dieux. Nous faisons ce que le maître effrayé a ordonné, et nous voyons la jeune fille pendue, ayant noué à son cou une corde faite de son linceul. Et lui tenait la vierge embrassée par le milieu du corps, pleurant la mort de sa fiancée envoyée dans le Hadès, et l'action de son père, et ses noces lamentables. Dès que Créon l'aperçoit, avec un profond soupir, il va jusqu'à lui, et plein de sanglots, il l'appelle. Ô malheureux, qu'as-tu fait? Quelle a été ta pensée? Comment t'es-tu perdu? Je t'en supplie, sors, mon fils! Mais l'enfant, le regardant avec des yeux sombres, et comme ayant horreur de le voir, ne répond rien et tire l'épée à deux tranchants. Mais la fuite dérobe le père au cou. Alors, le malheureux, furieux contre lui-même, se jette sur l'épée et se perce de la pointe au milieu des côtes. Et de ses bras languissants, encore maître de sa pensée, il embrasse la Vierge. Et haletant, il expire en faisant jaillir un sang pourpré sur les pâles joues de la jeune fille. Ainsi, il est couché mort auprès de sa fiancée morte, ayant accompli, le malheureux, ses noces fatales dans la demeure d'Hadès, enseignant aux hommes par son exemple que l'imprudence est le plus grand des maux.
Que pressens-tu de ceci? La femme a disparu avant d'avoir prononcé une parole, soit bonne, soit mauvaise.
J'en suis étonné comme toi-même. Cependant, je me flatte de l'espoir qu'ayant appris la mort de son fils, elle n'a pas voulu se lamenter par la ville, mais que, retirée dans sa demeure, elle va en avertir ses servantes afin qu'elle pleure ce malheur domestique, car elle ne manque pas de sagesse au point de faillir en quelque chose.
Je ne sais, mais il me semble qu'un trop grand silence annonce d'aussi cruels malheurs que des cris répétés et sans frein.
Nous saurons bientôt, entrer dans la demeure, ce qu'elle cache dans son cœur irrité. Car tu dis bien, un trop grand silence est effrayant en effet.
Voici venir le roi lui-même, portant dans ses bras, s'il m'est permis de le dire, un gage éclatant du malheur qui lui est infligé, non par un autre, mais par sa propre faute.
Créon. Ô faute sa mère et mortelle d'un esprit insensé. Ô, voyez ces meurtriers et ces victimes, tous d'une même famille. Ô fatale résolution. Hélas, enfant, tu es mort jeune. D'une mort hâtive. Hélas, hélas, non par ta démence, mais par la mienne.
Hélas, que tu as connu tard la justice.
Créon. Hélas, je l'ai connu malheureux. Alors, un dieu furieux contre moi m'a frappé sur la tête et m'a inspiré de funestes desseins, renversant du pied mes joies. Hélas, hélas, aux travaux misérables des hommes. Ô maître, tu as rencontré et tu possèdes tous les maux, portant les uns dans tes bras et devant bientôt contempler les autres dans ta demeure. Qu'y a-t-il encore? Ta malheureuse femme vient de se frapper mortellement, prouvant ainsi qu'elle était bien la mère de ce mort. Au seuil de l'inexorable Hadès, pourquoi me perds-tu? Ô messager d'un lamentable malheur, quelle parole as-tu dite? Hélas, hélas, tu as achevé un homme déjà mort. Que dis-tu? Hélas, quelle calamité nouvelle m'annonces-tu? La mort sanglante de ma femme après celle-ci? Tu peux regarder. Elle n'est plus dans ta demeure. Hélas, malheureux. Je vois cette nouvelle misère. Laquelle me reste-t-il à subir désormais? Ô malheureux que je suis! J'ai dans mes bras mon fils mort, et je vois d'un autre côté celle-ci. Mort. Hélas, malheureuse mère. Hélas, mon fils. Ayant embrassé l'autel, elle s'est frappée et elle a fermé ses paupières chargées d'ombre, après avoir pleuré l'illustre destinée de Mégare et celle de Haïmon. Et enfin, elle a jeté des imprécations contre toi qui a tué son enfant. Hélas, je suis frappé de terreur. Pourquoi quelqu'un ne m'a-t-il pas percé par devant d'une épée à deux tranchants? Malheureux que je suis, Je suis accablé de misère. Cette morte t'a accusé de ces deux morts. De quelle façon a-t-elle cessé de vivre? De sa propre main, elle s'est frappée de l'épée sous le foie dès qu'elle a su la destinée lamentable de son fils. Hélas sur moi! Jamais je n'accuserai aucun autre homme des maux que j'ai seul causés, car c'est moi qui t'ai tué. Misérable que je suis. Moi-même, et c'est la vérité. Ô serviteur, emmenez-moi très vite. Emmenez-moi au loin. Moi qui ne suis plus rien.
Tu as raison, s'il n'est rien de bon dans le malheur. Le mal présent est le meilleur qui cesse le premier.
Allons, vienne une dernière mort qui amène mon suprême jour tant désiré. Allons, qu'elle vienne, afin que je ne voie pas de lendemain.
Les choses sont futures. Il convient de s'occuper des choses présentes. C'est à ceux que l'avenir concerne de s'en inquiéter.
Mais aussi, n'ai-je demandé par mes prières que ce que je désire?
Ne désire rien maintenant. Les mortels ne peuvent échapper à un malheur fatidique.
Emmenez au loin un insensé, moi qui t'ai tué, ô enfant, et toi que voilà aussi. Ô malheureux! Je ne sais, n'ayant plus rien, de quel côté me tourner. Tout ce que j'avais en main est tombé. Une insupportable destinée s'est ruée sur ma tête.
La meilleure part du bonheur est la sagesse. Il faut toujours révérer les droits des daimons. Les paroles superbes attirent aux orgueilleux de terribles mots qui leur enseignent tardivement la sagesse.